à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de ce point, actualité en Tunisie, des pluies d'une intensité inédite depuis plus de 70 ans, selon les autorités, ont provoqué de fortes inondations et ont fait au moins 4 morts. Au Liban, une frappe israélienne a visé une voiture ce matin près de la ville de Saïda, tuant un homme selon le ministère libanais de la Santé. L'armée israélienne affirme avoir visé un membre du Hezbollah. Et le pouvoir syrien a annoncé hier soir un nouveau cessez-le-feu avec les forces kurdes repliées sous la pression militaire dans leur bastion du nord de la Syrie et lâchées par leurs alliés américains. Et on débute ce rendez-vous d'information par l'actualité en Tunisie où des pluies d'une intensité inédite depuis plus de 70 ans ont provoqué de fortes inondations et ont fait au moins 4 morts. Des écoles, de nombreux commerces ont dû fermer leurs portes hier, notamment dans la capitale. Le pouvoir syrien a annoncé hier soir un nouveau cessez-le-feu avec les forces kurdes, repliées sous la pression militaire dans leur bastion du nord de la Syrie et lâchées par leurs alliés américains. L'armée syrienne est entrée ce matin dans l'immense de détention d'Al-Hol qui abrite des familles de Daesh, un territoire jusqu'ici contrôlé par les forces kurdes. Et 11 personnes ont été interpellées à Paris hier soir après des incidents en marge d'un rassemblement non déclaré de la communauté kurde qui a réuni plus de 1200 personnes selon les autorités. Au Liban, une frappe israélienne a visé une voiture ce matin près de la ville de Saïda, tuant un homme selon le ministère libanais de la Santé. L'armée israélienne affirme avoir visé un membre du Hezbollah. Et dans un tout autre volet, l'armée soudanaise étudie une nouvelle proposition de trêve américano-saoudienne dans le conflit, l'opposant aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Dans le reste de l'actualité internationale, Donald Trump est attendu à Davos, en Suisse, ce mercredi pour un face-à-face électrique avec les dirigeants européens, alors que sa volonté d'annexer le Groenland menace de faire éclater l'alliance transatlantique. En Ukraine, des frappes russes ont tué dans la nuit 2 personnes et fait 1 blessée. Et en Russie, 11 personnes ont été blessées dans la nuit dans une frappe de drone ukrainien. Et enfin, en France, Premier ministre Sébastien Lecornu a engagé hier après-midi la responsabilité de son gouvernement sur la partie recette du budget de l'État pour 2026, premier d'une série de 3, 49.3, qui devrait permettre la promulgation du texte avant la mi-février. Et c'est l'un de nos dossiers du jour à suivre. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et place maintenant au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour et premier dossier. La France va-t-elle enfin se doter d'un budget ? Le Premier ministre va donner la responsabilité de son gouvernement sur la partie recette du budget de l'État et l'utilisera à l'article 49.3 malgré sa promesse initiale de ne pas y recourir. La France Insoumise et le Rassemblement National ont annoncé leur volonté de déposer une motion de censure que ne voteront pas les socialistes ni les députés Liotte, à l'image de Constance de Pelichy qui souligne notamment l'absence du budget affaibli, la position de la France dans un contexte géopolitique sous tension. On l'écoute.
Le plus important est de doter la France d'un budget le plus vite possible. Chaque semaine qui passe sans budget prolonge et aggrave la crise économique dans laquelle nous nous trouvons. Ne pas se doter de budget, c'est empêcher les collectivités d'investir et donc par là même priver d'emploi un grand nombre de collectivités en mettant en péril tout le secteur du BTP. L'urgence était à un budget. C'est clairement pas le meilleur, mais au moins c'est un budget. Se doter d'un budget nous permettra de limiter l'impact de l'image négative qu'on peut avoir aujourd'hui à l'échelle internationale, mais c'est pas la seule raison qui peut nous pousser à ne pas voter la censure. Encore une fois, à mon sens, l'impact sur notre économie locale est tellement important par rapport à l'absence de budget que la seule responsabilité qui s'impose à nous est de permettre un budget pour la France d'ici la fin du mois.
Donc bien entendu, vous ne voterez pas la censure, c'est une évidence, vous nous l'avez dit.
Si les promesses que l'on nous a faites ces dernières heures se retrouvent bien dans les tableaux qui sont en train de nous être transmis, je ne voterai pas la censure.
Et vous venez d'écouter Constance de Pellichy, députée Liotte, au micro de François-Xavier de Calonne. Second dossier du jour dans l'actualité internationale, hein, le ton est monté cette semaine entre Washington et Paris. Donald Trump brandit la menace de 200% de droits de douane sur les vins et les champagnes français. Un levier pour faire pression sur Emmanuel Macron et le pousser à rejoindre un nouveau conseil de paix voulu par la Maison-Blanche. Mais au-delà de l'annonce, une question très concrète se pose. La Maison-Blanche peut-elle à elle seule décider d'un tel niveau de taxation? Pour Alain Frachon, chroniqueur au Monde et spécialiste du Proche-Orient et des États-Unis, la réponse pourrait venir vite. Un arrêt de la Cour suprême est attendu dans les prochains jours après un recours d'intervenants américains. On l'écoute.
Alors, on saura ça dans quelques jours. Parce que dans quelques jours, il va y avoir un arrêt de la Cour suprême parce qu'un grand nombre d'intervenants américains, n'est-ce pas, pas simplement les démocrates, l'opposition, mais aussi d'autres organisations comme les chambres de commerce et d'autres encore, font un procès à l'administration, à leur administration, hein. Ce sont des Américains qui font un procès à l'administration Trump au motif qu'il n'avait pas le droit, selon la Constitution, d'ériger les droits de douane comme cela, de manière unilatérale, dans le monde entier. Et que donc, ces droits de douane sont inconstitutionnels. Si cet arrêt est bien celui qu'on pense, et on pense, la plupart des observateurs pensent que la Cour suprême va annuler les hausses de tarifs décidées par Donald Trump en avril comme étant anticonstitutionnelles parce que, selon la Constitution, seul le Congrès, et particulièrement au Congrès, la Chambre des représentants, la Chambre des députés, aurait le droit d'imposer à l'extérieur des droits de douane de manière comme ça, unilatérale. C'est seulement les États-Unis qui décident. Pour ça, il faut le vote du Congrès. Or, Trump, lui, a évoqué une vieille législation du début du 19e siècle en disant « le pays est en situation d'urgence, il est envahi par des productions étrangères et donc j'ai le droit, à cause de cette législation me donne le droit de décider seul de droits de douane ». Cela a été contesté aux États-Unis, l'affaire est allée jusqu'à la Cour suprême. La Cour suprême doit rendre son arrêt dans quelques jours. La plupart des observateurs américains et de la presse américaine pensent que l'arrêt sera défavorable à l'administration Trump et que celle-ci sera contrainte d'annuler ses droits de douane et de passer par le Congrès, ce qui ne sera pas facile.
Et vous venez d'écouter Alain Frachon, chroniqueur au Monde, spécialiste du Proche-Orient et des États-Unis. Il répondait à Nadia Bencher. Et enfin, dernier dossier, face aux menaces de Donald Trump qui souhaite prendre le contrôle du Groenland, la France a demandé l'organisation d'un exercice de l'OTAN sur le territoire autonome danois. Paris se dit prêt à y contribuer. Face aux velléités expansionnistes du président des États-Unis, le député RN Jean-Philippe Tanguy estime que les Français découvrent ce qu'est l'impérialisme américain. On l'écoute.
Pour le moment, ce sont des mots et des mots qui sont contraires à d'autres prises de position sur le Venezuela ou sur un alignement quasi général de la France d'Emmanuel Macron sur les intérêts atlantistes et états-uniens. Donc, écoutez, on va voir dans la durée ce que va faire M. Macron. Vous savez, moi, je ne mets pas de mots. Je connais bien M. Macron. C'est l'homme de la vente d'Alstom aux Américains, de la vente de Technip aux Américains, de la vente via les Finlandais d'Alcatel à Nokia, mais avec des intérêts américains derrière. Voilà, donc je suis très prudent.
Il a toujours été atlantiste, mais le second mandat de Donald Trump n'avait pas commencé. Et là, on assiste à un véritable basculement face à cela, justement. Que doivent faire la France et l'Union européenne? Et est-ce que l'Union européenne est suffisamment unie?
Je ne partage pas cet avis du basculement. Donald Trump utilise des mots différents pour mener une politique assez proche de ce qu'ont toujours fait les États-Unis. Quand l'administration européenne retient en otage Frédéric Pierroutfi, citoyen français qui n'a strictement rien fait dans une prison de haute sécurité américaine pour faire pression sur les dirigeants d'Alstom pour piller notre entreprise, c'est pas très aimable. Quand Jacques Chirac, François Hollande, Nicolas Sarkozy sont espionnés par la NSA, c'est pas spécialement aimable. Voilà, en fait, les Françaises et les Français découvrent en fait ce qu'est l'impérialisme américain. Alors c'est vrai que l'impérialisme américain, version Trump, est très agressif, mais sur le fond, l'impérialisme de M. Obama ou d'autres était parfois plus violent contre la France pour le moment.
Et baisse quoi la France dans tout ça?
Mais c'est une des principales puissances mondiales, c'est un membre permanent du Conseil de sécurité, c'est une puissance agricole, une puissance militaire, une puissance industrielle, une puissance culturelle. Et ça, j'insiste dessus, parce que quand on a un président comme Emmanuel Macron qui ne croit pas dans la culture française, qui ne croit pas dans la langue française, qui ne croit pas donc dans la civilisation française, comment voulez-vous avoir une position par rapport aux États-Unis, qui sont eux-mêmes une puissance, une civilisation expansionniste?
Vous venez d'écouter Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National, au micro de François-Xavier de Calonne. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.